19h30 ici à Paris. L'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors dans la pile de journaux qui quotidiennement trône à la rédaction Monde de RFI, en voilà un qui n'est pas passé inaperçu aujourd'hui, c'est l'Humanité, je l'ai entre les mains. L'UMA, comme il est surnommé, fondé par Jean Jaurès, longtemps organe officiel du Parti communiste français et qui a repris bien la maquette de son premier numéro pour célébrer aujourd'hui ses 120 ans. À cette occasion, nous posons ce soir la question, est-ce que les médias sont de plus en plus partisans ? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'il existe encore des médias purement généralistes en France ? Et face à cela, faut-il réguler et comment y parvenir ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Benoît Huette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialisé en droit des médias, membre des États généraux de l'information et co-auteur du livre « L'information est un bien public, refonder la propriété des médias » qui ressort aujourd'hui en livre de poche. Face à vous, Amaury de Rochegonde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une des voix d'RFI, auteur de la chronique des médias évidemment sur la radio mondiale, co-auteur du livre « Médias, les nouveaux empires », rédacteur en chef, adjoint à stratégie et président de l'association des journalistes médias. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir François Jost.
Oui, bonsoir.
Professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à Paris 3, directeur de la revue Télévision et auteur du livre L'Opinion qui ne dit pas son nom, du pluralisme des médias en démocratie. Merci beaucoup à vous trois d'abord d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, François Jost, ça vous inspire quoi l'Humanité qui fête ses 120 ans aujourd'hui ? Est-ce que vous vous demandez finalement comment l'UMA continue à survivre aujourd'hui ?
Évidemment, l'UMA a eu plusieurs moments difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une aide à la presse, et notamment une aide au pluralisme, qui quand même l'aide à vivre.
Amaury de Rochegonde, vous aussi, je voudrais réagir, vous faire réagir à ces 120 ans de l'UMA, parce que
c'est-à-dire que l'Humanité, j'allais dire, l'ADN, c'est l'engagement. Donc ouais. C'est un journal par définition partisan. C'est inscrit, complètement corollaire à l'organisation du Parti communiste français. Donc
encore maintenant.
Aujourd'hui, un peu moins, c'est vrai, parce qu'ils ont développé notamment une liberté éditoriale, puisqu'il y a une certaine indépendance de la rédaction par rapport aux ordres qui venaient de la place du colonel Fabien. Donc ça a un peu évolué. Mais au moins, je dirais, ce qui est bien avec l'Humanité, c'est qu'on sait exactement où on met les pieds. Le programme n'est pas caché, vous voyez. Parce qu'il y a un certain nombre de médias, on ne sait pas trop où ils sont.
Ça annonce notre débat, oui. C'est pas le cas de tous les médias.
C'est pas loin le cas de tous les médias. Vous voyez, j'entendais il y a pas très longtemps Vincent Bolloré qui passait devant une commission d'enquête parlementaire et qui disait je suis démocrate chrétien.
Et ben il l'a répété.
Il l'a répété plusieurs fois. Et vous savez, il y en a un qui s'y est pas trompé. C'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui connaît bien la famille des démocrates chrétiens en Allemagne et qui a dit non. Monsieur Bolloré n'est pas démocrate chrétien. Monsieur Bolloré veut faire la jonction entre la droite et l'extrême droite pour amener l'extrême droite au pouvoir. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est très clair de l'autre côté du Rhin, qui est peut-être moins clair pour nous.
On va évidemment parler de Vincent Bolloré et de sa chaîne CNews, notamment. Benoît Huette, je voudrais terminer mon tour de table sur l'UMA. Ça vous inspire quoi, l'UMA qui a 120 ans aujourd'hui ?
C'est quelque chose dont on peut, je crois, se féliciter. C'est quand même une bonne chose que des journaux arrivent à tenir dans la durée. C'est aussi un journal qui a prouvé de grandes qualités, je dirais, journalistiques en termes de respect de la déontologie. Je pense qu'il y a une équipe de grande qualité là-bas. Et il participe largement au pluralisme des expressions, c'est-à-dire que tout le monde sait que la ligne éditoriale de l'Humanité a clairement un penchant très fort, mais tout le monde le sait, c'est connu et ça participe au débat démocratique et je pense que c'est une très bonne chose que ça puisse continuer.
30 000 abonnés, c'est ce que l'UMA revendique. 3 à 5 000 ventes en kiosque par jour. François Jost, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Amaury de Rochegonde. Ça nous renvoie complètement dans le débat de ce soir, qui est est-ce que les médias sont de plus en plus partisans ? Est-ce que finalement, l'Humanité est un des derniers médias à l'idéologie assumée, je dirais ?
Alors, je crois qu'il faut vraiment, quand on dit médias, là, il faut être un petit peu plus précis, parce que les différents médias ne sont pas exactement dans la même situation. C'est vrai que l'Humanité, c'est un journal qui s'est créé après la loi de liberté de la presse, les journaux ont été dès le départ conçus comme des journaux d'opinion. C'est aussi plus ou moins le cas des radios qui ont été privatisées et permises après 82 sur des bases qui sont annoncées, c'est-à-dire qu'elles ont droit de représenter des idéologies. Et donc, tous ces radios et ces journaux représentent une sorte de pluralisme externe. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de tous ces médias qui fait du pluralisme. Alors, ce n'est pas du tout le cas de la télévision, dont on a déjà, en évoquant M. Bolloré, on a un petit peu mis
l'accent
là-dessus. Pardon ?
On a campé le décor.
Oui, on a campé le décor. Ce n'est pas du tout le cas des télévisions qui sont... où les lois ont été créées à la suite du monopole qui a écrasé quand même la liberté d'expression pendant des années. Et la loi de 82 puis de 86 ont conçu que les chaînes de télévision devaient avoir à l'intérieur même un pluralisme. C'est-à-dire qu'une chaîne doit donner la parole à des gens pour laquelle le journalisme peut être, mais aussi pour l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut toujours du contradictoire, et la liberté d'expression est donc interne. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose évidemment qui se surajoute, c'est que des patrons de presse comme Bolloré peuvent jouer de plusieurs médias et donc répandre un petit peu comme des tentacules, j'allais dire, différentes de ses conceptions à lui, dont effectivement on a du mal à le croire quand il dit qu'il est juste un démocrate chrétien et que c'est l'opinion d'un démocrate chrétien. Évidemment, Zemmour lui-même a dit à un moment qu'il avait parlé suffisamment avec Bolloré pour savoir qu'il avait un grand projet de refondation de la France, de thèmes tout à fait d'extrême droite qu'il approuve, lui, Zemmour.
Je me permets d'ajouter ça parce que ça vous concerne, on retrouve justement ces affinités dans l'étude que vous avez réalisée sur justement CNews, intitulée Un exemple de chaîne d'opinion pour l'interrogation, et il en ressort que la droite et l'extrême droite occuperaient plus de 40% du temps d'antenne de CNews.
Oui, et puis je crois que justement vous avez un représentant, quelqu'un qui a travaillé avec Julien Cagé, qui avec d'autres méthodes que les miennes, dit à peu près la même chose. Il y a aussi une enquête sur Libération il y a quelque temps qui arrivait à 36% de gens de droite et d'extrême droite. Donc, quelle que soit la méthode, c'est absolument clair. Alors, c'est clair, si vous voulez, je pense qu'on va en parler de ça, mais quand c'est un choix éditorial, ça pose un problème peut-être, mais enfin c'est compréhensible. Quand en revanche ça écrase tout et que la parole adverse ne peut pas arriver, là c'est évidemment très très ennuyeux. Je voulais juste citer la phrase de Zemmour qui disait en 2022, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de remplacement de la civilisation. Il veut léguer à ses enfants et ses petits-enfants la France telle qu'on le léguer. Donc, c'est absolument, ça fait illusion pour personne. Et je pense que c'était très, très bien d'ailleurs que M. de Rochepont rappelle que vu de l'extérieur, c'est évident.
D'ailleurs, la situation de CNews inquiète ou en tout cas interroge le Conseil d'État, puisqu'il a demandé à l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des médias, d'avoir plus de fermeté envers CNews, notamment dans le choix des invités, des intervenants. Amaury de Rochegonde, je voudrais rebondir sur le mot pluralisme qui a été utilisé plusieurs fois là, par François Jost. Pluralisme, pour moi, c'est un équilibre des opinions. Est-ce qu'il y a un pluralisme en France dès lors ?
Alors justement, ce qu'a dit François Jost est très important, même si ce n'est pas forcément évident comme ça, c'est qu'il y a un pluralisme interne et un pluralisme externe. Qu'est-ce que c'est que le pluralisme interne ? C'est qu'on considère, c'est par exemple les kiosques à journaux, le pluralisme externe, pardon, on considère que voilà, il peut y avoir différentes opinions qui s'expriment. C'est également le cas de la radio, parce que la bande de FM est assez importante, donc on peut avoir beaucoup de radios. Maintenant, il y a le numérique. Et jusqu'à présent, sur la télévision, il y avait ce qu'on appelait le pluralisme interne. On considérait que le pluralisme ne s'opérait pas sur l'ensemble du spectre, mais à l'intérieur même d'une chaîne. Donc, il fallait donner à chacun un petit peu un poids qui correspond à la représentation des opinions à la société française,
c'est
en fonction des
cas.
Élections, etc. Donc, c'est bien ce qu'ont pointé Julia Cagé, Benoît Huet et effectivement François Jost et d'autres, c'est qu'on n'a pas retrouvé ça, notamment au moment de la campagne électorale des présidentielles. Mais moi, j'ajouterais un point qui est très important, qui est un point économique. On a tendance à oublier que le spectre des médias a tendance à devenir de plus en plus partisan et de plus en plus à droite, pour dire les choses clairement, c'est parce qu'il y a un problème économique. C'est-à-dire que prenez les chaînes d'infos, vous n'avez que BFM TV qui est rentable. Toutes les autres chaînes sont en perte. Celle de LCI est aidée par le groupe de TF1, le France Info est aidé par France Télévisions. Vous prenez les radios, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, à part RTL.
Donc il faut un patron de presse et son idéologie qui porte les médias.
Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des recettes publicitaires qui sont en train de s'amenuiser, alors là, vous avez une tentation très forte qui est la tentation qu'on appelle la tentation de la polarisation. C'est-à-dire qu'il faut absolument se créer une identité très forte qui soit en complète rupture avec ce que l'on a l'habitude d'entendre et donc qui est le relatif consensus, qu'on appelle parfois le mainstream. Et là, vous vous faites entendre.
Stigmatisé de bien-pensance, parfois.
Voilà, stigmatisé de bien-pensance. Et qui est parfaitement calibré pour les réseaux sociaux. Parce que quand vous faites ça, vous êtes évidemment, vous pouvez rebondir sur les réseaux sociaux, envoyer les punchlines de vos émissions sur les réseaux sociaux. Enfin bref, vous faites mousser la chose. Et donc, c'est quelque chose d'absolument terrible et terrifiant d'une certaine façon. Parce que si on pousse la logique jusqu'au bout, eh ben, on va avoir une extrémisation de plus en plus forte. Parce qu'on va avoir des médias de plus en plus marginalisés. Dans le système publicitaire, on peut savoir que Facebook, Google sont en train vraiment de manger la laine sur le dos d'un certain nombre de médias. Et donc, ils vont avoir tendance pour exister, et c'est vraiment le cas de CNews, pour exister par rapport à BFM TV, il n'y a pas qu'une vision idéologique, il y a aussi une vision marketing qui est « je vais polariser, je vais faire le buzz ». Parce que comme ça, je vais faire de l'audience et je vais m'en sortir.
Mais les médias, justement, taxés de bien-pensance aujourd'hui, vont être de plus en plus marginaux, vous le dites. Et où sera le clivage si on en vient là avec une surdomination des médias partisans et de plus en plus à droite ?
Il y aura toujours des médias, et notamment le service public, qui va un petit peu donner les codes du vivre ensemble, j'allais dire. Hein. Vous savez, c'était Alain Minc qui parlait du cercle de la raison. Ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que ce cercle de la raison, il a été complètement explosé. Avant, il y avait un relatif consensus entre médias responsables, dits de qualité, qui s'arrangeaient pour donner une position qui représentait en gros l'espace démocratique. Or, ces frontières-là ont un peu explosé.
Il reste le service public et RFI en est un bon exemple. Benoît Huet, alors là, il faut savoir, qu'est-ce que vous qui êtes avocat, qu'est-ce qui est prévu en termes de régulation ? Il n'y a pas de limitation de temps de parole selon l'idéologie dans les médias ?
Alors, ouais, donc je souscris complètement à ce qui a été dit et qui présente bien les causes, les raisons pour lesquelles les médias peuvent se montrer de plus en plus partisans. D'un point de vue juridique, il faut bien distinguer d'un côté la presse et de l'autre côté l'audiovisuel. En matière de presse, historiquement, et on le voit avec L'Humanité qui est un très bon exemple, il n'y a absolument aucune obligation pour un journal d'avoir ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire du pluralisme interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation pour Le Figaro de mettre des papiers qui seraient plutôt orientés à gauche, il n'y a pas d'obligation pour L'Humanité de mettre des papiers qui seraient orientés à droite. Chaque journal fait absolument ce qu'il veut, et on estime que le pluralisme est assuré simplement par la diversité des journaux. Et du côté de l'audiovisuel, on a une situation qui est complètement différente, puisque on estime que les fréquences audiovisuelles audiovisuelles sont une ressource rare qui est mise à disposition des sociétés éditrices par l'État français, gracieusement. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe Bouygues ne paye pas pour avoir TF1, le groupe Vivendi de M. Bolloré ne paye pas pour avoir C8 ou CNews.
Qu'en Angleterre, pardon, on paye les fréquences.
C'est un choix qui a été fait par l'utilisateur français, et la contrepartie, c'est qu'on impose à ces chaînes des exigences en matière d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme. C'est-à-dire que la contrepartie d'avoir une ressource gratuitement, c'est de faire preuve d'honnêteté dans la présentation de l'information, c'est de donner une indépendance à sa rédaction, et c'est de maintenir des opinions plurielles sur l'antenne, ce qui n'a pas été respecté par CNews, qui s'est fait rattraper par le Conseil d'État grâce à l'intervention très bienvenue de l'association Reporters sans frontières, qui a saisi l'ARCOM puis le Conseil d'État pour faire constater que CNews ne respectait pas ses obligations en matière de pluralisme. Concrètement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils détournaient l'esprit de la loi, c'est-à-dire qu'ils respectaient strictement les pourcentages de temps de parole des personnalités politiques, mais ils déséquilibraient complètement la balance en faisant intervenir des éditorialistes et des chroniqueurs qui avaient un point de vue très partisan et qui viennent complètement déséquilibrer.
Et qui sont sans étiquette.
Alors, justement, c'était tout le débat sur l'interprétation de cet arrêt du Conseil d'État. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient fausses, en fait, sur l'interprétation de cet arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État ne demande pas de mettre des étiquettes sur les personnes qui s'expriment dans les médias. Ça n'a été écrit nulle part. Évidemment, le Conseil d'État nous dit simplement qu'il doit y avoir un respect du pluralisme des courants d'expression, ce qui est interprété simplement de manière globale. Et le rapporteur public au Conseil d'État est venu nous expliquer qu'il ne fallait sanctionner que des déséquilibres manifestes intentionnels d'une chaîne, c'est-à-dire que on ne va pas mettre une étiquette sur chaque personne, on va simplement regarder globalement les idées qui sont véhiculées, on va voir si elles sont véhiculées de manière honnête, et ensuite on va voir si elles expriment une forme de pluralisme. Et c'est seulement dans des cas extrêmes que l'ARCOM devrait intervenir pour sanctionner l'éditeur. Voilà.
Les médias sont-ils de plus en plus partisans, les médias français? Mais évidemment, on va citer l'étranger. On évoque ce débat du jour ce soir à l'occasion des 120 ans de l'Humanité. L'Humanité, le quotidien fondé par Jean Jaurès, longtemps organe officiel du Parti communiste, à 120 ans aujourd'hui. Mes trois invités, Benoît Huet, que l'on vient d'entendre, avocat spécialisé en droit des médias, membre des États généraux de l'information, co-auteur du livre « L'information est un bien public, refonder la propriété des médias », Amaury de Rochegonde, auteur de la chronique des médias sur RFI, co-auteur également du livre « Médias, les nouveaux empires », rédacteur en chef adjoint à Stratégie, président de l'Association des journalistes médias, et François Jost, à qui je vais donner la parole à présent, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à Paris 3, directeur de la revue Télévision et auteur du livre « L'opinion qui ne dit pas son nom », du pluralisme des médias en démocratie. François Jost, rebondis sur cette phrase d'Amaury de Rochegonde, le spectre des médias est de plus en plus partisan, de plus en plus à droite. Oui. On a entendu ce qui était fait en termes de régulation avec l'avocat Benoît Huet. Est-ce qu'il faut en faire plus aujourd'hui, justement, pour rééquilibrer ce spectre?
Je vais continuer un petit peu dans la direction que Amaury nous a montrée. D'abord, je voudrais préciser que le livre de moi que vous avez cité, qui s'appelle « L'opinion qui ne dit pas son nom », n'est pas sorti. Oui. Il sort le mois prochain chez Gallimard dans la collection Tract.
Bon, bah, les auditeurs ont déjà rendez-vous.
Voilà, mais je reprends le titre, effectivement, parce que le titre, « L'opinion qui ne dit pas son nom », renvoie aussi à un problème qui est très crucial, c'est que dans son arrêt, dans sa décision, le Conseil d'État a donné donc raison à Reporters sans frontières, etc., on l'a dit, mais en même temps, si vous voulez, il a admis, il a conçu, il a conservé cette idée que CNews était une chaîne d'information. Or, ce que me dit Amaury de Rochegonde tout à fait justement tout à l'heure, c'est que précisément, ça n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne qui est très largement une chaîne d'opinion. C'est-à-dire que j'ai encore minuté les journaux télévisés ou ce qui s'appelle les titres qui segmentent, qui sont au milieu des émissions, ça représente quelque chose comme 9% du temps. C'est-à-dire tout le reste est du débat, c'est de l'opinion. Et cette confusion entre l'information et l'opinion est extrêmement dommageable. Et j'ai remarqué que CNews, après cette histoire du Conseil d'État, a même un petit peu été provocante, puisqu'aujourd'hui, avant, on marquait journaliste à valeurs actuelles pour étiqueter quelqu'un. Maintenant, il marque tout simplement journaliste.
Oui, c'est ce que je disais quand j'évoquais le sans-étiquette. étiquette, c'est qu'effectivement les intervenants, voilà, les chroniqueurs sont étiquetés journalistes et effectivement selon que vous, vous travaillez à Valeur Actuelle ou à Libération, voilà, vous n'êtes pas le même journaliste, vous n'avez pas les mêmes valeurs.
Voilà, pour un non-spécialiste, si vous voulez, qui connaît toutes les figures journalistiques, etc., c'est extrêmement trompeur, c'est ce qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idéologie, évidemment très populiste, qui s'avance masquée, c'est-à-dire c'est pas visible forcément pour quelqu'un qui regarde tranquillement sa télévision.
Alors je relance ma question, quand je demandais est-ce qu'il faut en faire plus, est-ce qu'il faut comptabiliser par le temps de parole de ces personnes-là ?
Ah ben moi je pense évidemment qu'il faut arriver à compter quand même le temps des invités. C'est une question de démocratie d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ajouterais une chose. Il y a une chose qui reste à conquérir encore très fortement, c'est les courants de pensée hors politique. Parce que pour l'instant, on a tout centré, si vous voulez, sur les courants de pensée politiques, hein, les hommes politiques encartés, puis ceux qui ne le sont pas. Mais il y a tout le reste, et il y a notamment, pour CNews, la religion. La religion s'exprime très fortement à travers une émission qui s'appelle Enquête d'esprit. Tous les jours, on a pour le saint du jour un récit qui nous raconte qui était ce saint, etc. Et donc, il y a effectivement une emprise de j'allais pas dire de chrétiens, mais de catholiques assez réactionnaires qui s'expriment très largement sur la chaîne. Ce qui fait que ça, on ne le compte pas du tout pour l'instant. Ça passe totalement sous les radars. Et on pourrait très bien dire, regardez le service public, le dimanche matin, il y a une grande session, une grande tranche horaire où on a toutes les religions qui sont représentées. Hein, donc là, il y a du pluralisme, si vous voulez, sur le dimanche matin de la télévision de service public. Et en revanche, il y a une restriction absolument de la voix de son maître, si vous voulez, qui renvoie simplement à Bolloré.
Et alors, puisque vous évoquez le service public, est-ce que, pour reprendre entre guillemets ce que vous disiez à Maurice Rochegonde en sous-titre, est-ce qu'il n'y a plus que le service public aujourd'hui qui n'est pas partisan dans les médias français ?
Vous me posez la question à moi ?
Oui.
Moi, je pense que le service public, si vous voulez, il y a une chose que je trouve très intéressante. Le médiateur, avant la médiatrice actuelle, mais le médiateur de Radio France, disait que quand il y a une émission, des informations sensibles, vous avez des gens qui disent, de toute façon, vous avez toujours des gens d'extrême droite qui viennent dans votre station, d'autres qui disent, oui, bien sûr, vous oubliez, les gens d'extrême gauche s'expriment, et les troisièmes qui disent, mais de toute façon, c'est la voix de Macron. Donc, il n'y a aucune, c'est ce que j'appelle une sorte de pluralisme ressenti, si vous voulez, il n'y a aucune objectivité là-dedans. C'est-à-dire que chacun croit qu'il est mal représenté par la télévision. Alors maintenant, ou la radio. Maintenant, quand on regarde de près, on s'aperçoit que, par exemple, le service public n'a jamais eu de sanctions, de mise en garde. Il y en a eu pour la télé, mais pas pour la radio. Donc, c'est quand même sans doute une preuve qu'il y a plus de pluralisme et moins de déviation vers la droite.
Que deviennent, à Maurice Rochegonde, les journaux historiquement engagés sans qu'ils soient organes de partis politiques ? Je pense à Libé à gauche, Libération, Le Figaro à droite. Parce que c'est une vraie différence avec,
oui, bien sûr. Non,
mais avec CNews, par exemple.
Mais il y a une tradition, et encore une fois, il est dans la tradition de la presse française d'avoir différents positionnements, différents engagements, différentes opinions. C'est tout à fait normal. Le Figaro est plus à droite, une droite conservatrice ou libérale d'ailleurs. Il y a un peu les deux tendances qui sont représentées. Libération est plus à gauche, mais avec certaines réserves. C'est-à-dire que ça va pas jusqu'à, ça va jusqu'à Mélenchon pour une certaine partie de la rédaction, mais pas pour ceux qui ont les commandes, si je puis dire. Où on reste quand même sur, disons, un pôle qui va de Macron au Parti socialiste, si vous voulez. Sur les autres journaux, Le Monde a une sensibilité de centre-gauche historique et voilà. Et ça ne... Alors après, on peut dire, comme le centre est un peu au pouvoir, enfin l'historique centre à travers Macron, est-ce que Le Monde ne s'est pas macronisé, si je puis dire ? Or, ils ont fait un certain nombre d'enquêtes qui prouvent qu'ils ont aussi un regard critique ô combien sur le bilan du président. Donc voilà, ce qui est problématique, si vous voulez, dans ces histoires de journaux et d'opinion. C'est à partir du moment où il y a instrumentalisation par un propriétaire. Et ça, c'est si on reste avec finalement un collectif qui est dans une tradition qu'il porte, les gens ont été formés, ils arrivent, ils ont rencontré des anciens, ils ont dit voilà, on comprend ce que c'est que la ligne éditoriale. La ligne éditoriale du Figaro n'est pas la même que celle de Libération ou du Monde. Le problème, c'est quand vous avez quelqu'un qui arrive, un propriétaire nouveau, et qui dit bon, maintenant les règles changent. Et la ligne éditoriale que vous avez connue, elle ne va plus rien avoir avec ce que vous allez connaître.
Elle est clairement suspendue au patron de presse qui peut se succéder.
Elle est suspendue. Et on le voit, il y a deux exemples. Je ne vais pas revenir sur Bolloré, mais c'était le cas du Journal du Dimanche. Là, il y a une petite affaire sur Marianne, puisque Marianne a eu un positionnement très critique du libre-échangisme européen, même du bellicisme occidental, etc. Enfin, des institutions au sens superstructure européenne. Daniel Kretinsky, qui est le propriétaire, a dit « Je ne me retrouve pas dans les valeurs de ce journal, donc je vais le vendre ». Donc, vous voyez, il y a une liberté qui est quand même un petit peu sous contrainte, c'est-à-dire qu'à un moment, on se refuse d'intervenir, mais si on voit que la ligne éditoriale ne vous correspond pas, ben, on se réserve la possibilité de sortir.
Je voudrais avoir le mot de la fin avec Benoît Huet sur le chantier à mener éventuellement, pour rebondir à ce que disait François Jost, pour rééquilibrer finalement l'engagement des médias français. Mais Amaury de Rochegonde, en quelques mots, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, cette dérive entre guillemets vers la droite, vers l'extrême droite, elle est très française? Je vais reprendre les mots du secrétaire général de Reporters sans frontières, qui correspond à ce que vous nous disiez, qui parlait de polarisation à l'américaine qui nous envahit. Ça renvoie à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ou est-ce que c'est des choses qu'on observe ailleurs en Europe?
En Europe, on l'observe moins, je trouve. Aux États-Unis, c'est vraiment l'histoire de Fox News. On a l'impression que c'est un peu une réplique. Et on sait pourquoi ça s'est fait, parce qu'il y a eu une évolution du cadre réglementaire sur lequel je ne vais pas revenir. En Europe, c'est vrai qu'il y a une tentation. Il y a une tentation dans tous les médias de voir un petit peu comment on suit les tendances émergentes sur des nouveaux partis. Mais je dois dire qu'en Allemagne, par exemple, il y a des règles extrêmement strictes compte tenu de l'histoire sur le contrôle de tout ce qui est expression du rejet de l'étranger, etc. Donc, tout au moins dans les organes de presse, c'est relativement tenu.
Alors, Benoît Huet, justement, ce sera le mot de la fin. Vous qui êtes avocat spécialisé en droit des médias, est-ce qu'on peut s'inspirer du modèle allemand pour faire, comme a dit François Jost, peut-être comptabiliser tous les chroniqueurs, voir le temps sur les religions, nous disait François Jost, pour qu'il y ait une juste représentation?
Alors, c'est un grand chantier qui est ouvert actuellement, auquel je participe, qui sont les états généraux de l'information, où justement, avec tout un groupe de spécialistes et puis avec le concours de pas mal de propositions de la profession et puis des citoyens, on essaie d'élaborer des solutions nouvelles, justement, pour faire en sorte que les médias sont probablement un peu moins partisans. La première grande piste de réflexion, c'est le rôle de l'ARCOM, c'est-à-dire les obligations que l'ARCOM impose, l'ARCOM étant le régulateur de l'audiovisuel, c'est la façon dont l'ARCOM fait respecter ses obligations aux différentes chaînes. On est à un moment critique, puisque sur les 25 chaînes de la TNT, 15 voient leur canal renouvelé ou non renouvelé. Et donc, c'est un moment où c'est un grand signal où l'ARCOM a la possibilité de renégocier les conventions avec les chaînes en demandant l'application, par exemple, sur la neutralité religieuse, sur une forme de pluralisme également des courants d'expression, de pluralisme politique. C'est un moment clé pour que l'ARCOM se réaffirme, joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, l'ARCOM a des prérogatives assez larges dont elle ne s'empare pas forcément totalement. Le Conseil d'État l'a rappelé à l'ordre. Donc ça, c'est une grande piste d'avancée. Et la deuxième chose qui est plus compliquée à gérer, c'est cette polarisation de la société qui est plus globale, qui est assez liée au fonctionnement même des réseaux sociaux et des algorithmes, puisque si certains journaux se sont de plus en plus polarisés, c'est aussi parce qu'ils recherchent des clics sur des vidéos courtes, sur des réseaux sociaux par exemple. Et donc tout ça doit être repensé de manière globale, et c'est le chantier qui est en cours.
Eh bien, on va suivre de très près ces états généraux de l'information pour un meilleur équilibre des opinions dans les médias, car oui, les médias sont de plus en plus partisans. Merci beaucoup Benoît Huet, avocat spécialisé en droit des médias. Merci à Amaury de Rochegonde et merci à François Jost qui était en ligne avec nous. Arnold Assewa à la préparation de ce débat. Hélène Avril à sa réalisation. Allez, dans dans un peu plus d'une minute. Stéphane Genest pour le journal de 20h et le décryptage ce soir. Comment restaurer la compétitivité de l'Europe alors qu'un sommet européen s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. 20h30 dans une demi-heure. Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Au programme ce soir, Sylvie.
Alors nous parlerons de ce nouvel épisode dans le bras de fer entre le Burkina Faso et la France, hein, puisque 3 diplomates français sont expulsés. Nous parlerons également de ces graves inondations qui frappent l'Est de l'Afrique. C'est notamment la montée des eaux du lac Tanganyika qui a des conséquences lourdes sur les populations et le commerce. Le viol et l'inceste, deux sujets tabous à Madagascar. Vous entendrez le témoignage d'une jeune femme qui est devenue Miss Madagascar et qui a choisi de libérer la parole. Enfin, le football avec l'OM qui reçoit le Benfica Lisbonne ce soir en quart de finale, retour de la Ligue Europa.